Et vous écoutez France Culture. Comment franchit-on la ligne, un pas après l'autre? Don Winslow. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui franchira ce soir toutes les lignes possibles, qu'elles soient jaunes, rouges, blanches ou noires, et sont en compagnie de Don Winslow, le mythique auteur de Cartel et de La Griffe du Chien. Le père de Frankie Machine et de Bobby Z est en effet de passage à Paris, alors que paraît dans la collection noire d'Harper et Collins la traduction française de Corruption, son dernier roman, l'histoire de Danny Malone, flic de terrain, roi de Manhattan Nord et ripoux grandiose, dont la chute mettra en péril ni plus ni moins que l'Amérique tout entière. Quitte à franchir la ligne, autant voir les choses en grand, dont acte ce soir dans Mauvais Genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre, très ému de recevoir un de ses auteurs fétiches, Don Winslow. Bonsoir Don Winslow.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre entretien ce soir, donc pour Mauvais Genre sur France Culture, entretien que je mènerai avec Hubert Prolongeau.
Bonjour, bonjour François.
Hubert, très ému, j'imagine.
Ah, totalement, effectivement, c'est une rencontre rare.
C'est pas la première fois que vous lisez ces livres.
Non, du
vous
tout.
Vous avez tous lu méthodiquement.
Peut-être pas absolument tous, mais en tout cas depuis quelques années, oui, parce que c'est vraiment la crème de ce qu'on trouve dans le genre.
Effectivement, la lecture de Corruption ne vous laisse pas indemne, c'est d'ailleurs tout ce qu'on demande à des ouvrages noirs, notamment à ceux de Don Winslow. Mais avant de s'enfoncer dans l'univers new-yorkais de Danny Malone, le roi de Manhattan Nord, eh bien, nous allons ouvrir comme tous les samedis l'encyclopédie pratique des mauvais genres. Et à la rencontre de qui ce soir, ma chère Céline?
À la rencontre de Savine Faupin, co-commissaire de l'exposition Danser Brut au LAM, le musée d'art contemporain et d'art brut de Lille Métropole. Alors on s'éloigne de New York pour quelques temps, mais pour plonger dans un univers tout aussi fascinant, chargé de tensions et de mouvements, et où le geste est roi. Car cette exposition Danser Brut présente des œuvres, la plupart d'art brut, en lien avec la danse, des liens parfois directs, souvent involontaires. Et cela donne un parcours tournoyant au milieu de 300 œuvres qui questionnent chacune à leur manière les mouvements du corps. Il y a des danses du crayon, des manèges et des rondes, des tournoiements et des possessions, des forêts de gestes, une société tout entière qui danse dans les marges et que l'on retrouve par exemple dans les services psychiatriques de la Salpêtrière à la fin du 19e siècle avec le fameux professeur Charcot qui s'intéresse à la gestuelle des malades avec son complice Albert Londe, pionnier de la photographie médicale. Savine Faupin.
Dans l'exposition, donc, on présente des planches, des grandes planches photographiques qui, en fait, étaient donc faites à la Salpêtrière. Et on voit des patientes ou des patients qui ont été saisis par l'objectif, puisqu'en fait, il y avait un laboratoire photographique au sein de la Salpêtrière où les crises étaient presque reconstituée, voire mise en scène, puisque c'était véritablement aussi une mise en scène presque théâtrale hein, de la maladie. Et on voit par exemple une femme qui est en train de bouger. Et quand on regarde les séries de photographies qui ont été faites, c'est presque des chronophotographies, on a l'impression de la voir danser. Donc il y a ça qui est très surprenant. Et on voit aussi, par exemple, des crispations des mains. Très forte, qui crée aussi un corps très anguleux. Et ces crispations des mains, on va les retrouver chez les danseuses, par exemple, de cabaret comme Jeanne Avril Polaire, qui était une danseuse dite épileptique. C'était aussi des jeux là-dessus, sur danseur épileptique, danseur hystérique ou danseuse. Alors il y avait plein d'autres petits surnoms comme ça, mais et par exemple Jeanne Avril, qu'on voit reproduite, c'est une reproduction d'un dessin de Toulouse-Lautrec, elle a été patiente de Charcot. Et quand elle est chez Charcot à la Salpêtrière, elle va voir toute cette gestuelle elle-même. Elle souffrait d'hystérie. Elle va suivre des cours de gymnastique et puis participer au bal des folles. C'était dit le bal des folles, un bal au moment de Mardi Gras où les patientes étaient costumées, dansaient, et on montre quelques reproductions de ce bal des folles. Et après, quand elle quittera guérie la Salpêtrière, elle va introduire tous ces gestes dans ses danses de cabaret.
Alors ces gestes, justement, est-ce qu'on peut revenir peut-être un peu dessus? Vous avez commencé à les évoquer. Donc il y a quoi? Il y a un côté anguleux, répétitif, les postures des mains. Comment est-ce qu'on pourrait décrire tout ça?
En fait, il y a toutes ces poses. Alors, on les connaît par les photographies, hein, dont on présente pas mal d'exemples. Et aussi, il y a très souvent des gestes des mains. Il y a aussi des corps qui se tordent, qui vont être complètement crispés, ou qui sont presque aussi, quand on regarde certaines photos de la Salpêtrière, on pense aussi à une sorte de mise en scène du corps qui est presque un corps érotique. Et on va voir les femmes qui sont en cheveux, enfin les cheveux sont lâchés, les cheveux se bougent, le corps est torturé un petit peu, enfin on sent qu'il n'est pas dans une position normale, les bras vont se crisper, le corps va se contorsionner. Et puis il y a aussi des moments, en revanche, qui sont peut-être beaucoup plus en des pauses, dans des moments où le corps ne va peut-être plus bouger aussi, et là qui serait plus lié aux pratiques d'hypnose, parce que Charcot pratiquait l'hypnose, donc il plongeait en catalepsie, donc des moments où les patients ou patientes ne bougeaient plus, et on voit vraiment des gestes suspendus, on sent qu'ils sont arrêtés, et avant peut-être de recommencer ou de recommencer des séries de tics, un coude qui va se lever, une tête qui va bouger, et ça, toute cette gestuelle aussi, on pense par exemple à Tati.
Donc là, on parle plus de, par exemple, de la démarche de Tati.
Oui, on peut penser à la démarche, par exemple, dans Jour de fête, où le facteur, bah, il fait sa tournée comme ça à l'américaine, mais on voit, c'est toujours saccadé, c'est un peu raide, les gestes sont assez raides, un peu cassants aussi. Et ça, dans l'exposition, on présente un film qui a été tourné à la Salpêtrière en 1910 ou 1912, et on voit un patient qui a un costume de l'hôpital, et qui est très proche du costume du facteur de Tati, et il est toujours en train de tressauter. Il y a l'épaule qui saute, il y a la tête qui bouge, il y a la jambe qui va aussi partir d'un côté plutôt que de l'autre. Donc tout ça, on a l'impression aussi de voir quelque chose qui va vraiment devenir du burlesque. Et là, c'est un film de patients, enfin, présentant des patients, mais toute cette gestuelle, ces grimaces, ces pantomimes, on va les retrouver vraiment dans le cinéma burlesque de Charlot ou d'André Dide ou d'Alice Guy, et puis après de Tati et d'autres.
De l'influence de Charcot dans la gestuelle des cabarets et du cinéma muet, c'est à vivre dans l'une des salles de l'exposition Danser Brut, une exposition qui se tient en ce moment au LAM, le musée d'art contemporain et d'art brut de Lille Métropole, situé à Villeneuve-d'Ascq. Commissariat Savine Faupin et Christophe Boulanger, à voir en ce moment et jusqu'au 6 janvier. Pour plus d'informations, allez sur le site du musée www.musee-lam.fr.
Merci Céline, et maintenant l'heure est venue de s'enfoncer une fois définitivement dans l'univers de New Yorkais, l'univers de Manhattan, avec Don Winslow et son héros Danny Malone. Don Winslow, on va d'abord, est-ce nécessaire, ma foi, oui, parce que tout le monde ne lit pas de romans policiers et romans noirs, de vous présenter à nos auditeurs, Hubert Prolongeau, c'est à vous que revient ce devoir et cette tâche.
Ben non, on a toujours envie de le dire au début, d'abord parce que ça met l'invité de très bonne humeur et qu'après il est beaucoup plus aimable, et puis parce qu'on a toujours envie aussi, nous, d'être un peu dans l'emphase, mais je crois qu'on peut dire sans problème que Don Winslow est l'un des plus grands, sinon le plus grand auteur de polar américain, celui sans doute qui a ramassé la couronne un peu vacillante de James Ellroy. Winslow a démarré chez nous en France avec des romans parus en série noire. On a commencé à s'apercevoir savoir de son existence avec Vie et mort de Bobby Z et l'hiver de Frankie Machine. Et puis, comme parfois, il y a eu un moment, un basculement, le grand livre, celui qui fait passer un écrivain sympathique de ce statut à celui de véritable auteur. Ce livre pour Don Winslow, ça a été La griffe du chien, un livre magistral sur le trafic de drogue au Mexique, dans lequel apparaissaient des personnages extrêmement complexes, déchirés entre le bien et le mal, tous très très ambigus. La griffe du chien est un livre culte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un public de fans. Winslow lui a donné une suite il y a 2 ans, Cartel, qui n'a pas déçu, qui reprenait les mêmes héros 10 ans après et marqué dans la description de la
même
violence.
Troisième volet.
Voilà, avec impatience, et qui décrivait donc cette violence régnant au Mexique de manière encore plus apocalyptique. Et cette année, très rapidement après Cartel, sort Corruption, The Force en anglais, qui est un roman dont on se demandait s'il était un roman de transition, qui change de domaine, et qui effectivement est un livre à nouveau magistral, qui raconte la descente aux enfers d'un flic ripou dont les manœuvres se font jour et qui est pris dans un piège et qui ne peut s'en sortir qu'en trahissant encore plus tous ceux qui lui ont fait confiance. On est en pleine complexité morale, on est vraiment dans ce qui est aujourd'hui les thématiques principales de Don Winslow: où est le bien, où est le mal, où est la frontière, quand faut-il la franchir, et dans une espèce d'ambiguïté morale absolument fascinante.
Oui, comme je disais en citant Don Winslow en ouverture d'émission, comment franchit-on la ligne un pas après l'autre? Eh bien, on va suivre Danny Malone dans cette succession de pas qui vont l'emmener vers l'enfer et sans doute vers la mort. Don Winslow, Hubert Prolongeau a cité La griffe du chien, qui est effectivement un passage à un autre régime, si j'ose dire. C'est vrai que c'est un ouvrage dans lequel vous aviez à l'époque tout misé, tout mis, qui vous a pris 5 ans, avec une documentation phénoménale et j'imagine un engagement quasi existentiel, humain, total.
Yeah. Yeah, 5 years of my life, you know, and I was surprised myself the other day when I learned, because I just finished the third in that series, not Le Corruption, but a book called The Border, which will come out next year, that I've spent 20 years of my life on the Mexican drug story.
Oui, effectivement, c'est 5 ans de ma vie et j'étais étonnée moi-même récemment de me rendre compte, alors que je viens de terminer le troisième, donc pas Corruption, mais le troisième de la série qui s'intitule The Border et qui va sortir l'année prochaine, que j'avais consacré 20 ans de ma vie à l'étude de ce trafic de drogue à la frontière mexicaine.
Aviez-vous le sentiment, en vous lançant dans La griffe du chien, que ça serait un travail d'une telle ampleur? Et le sentiment que vous changiez aussi de catégorie d'auteur, que vous passiez d'auteur de polar reconnu à quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus engageant?
I had no idea that it was going to become that big in my life. In fact, I didn't start out to write that book at all. What had happened was there was a massacre of 19 innocent men, women and children near where we live, just across the border in Mexico. I wake up one morning.
J'ignorais que le livre et l'entreprise allaient prendre une telle place. À l'origine, le projet de ce livre venait de ce matin où je m'étais réveillée en entendant aux nouvelles le massacre de 19 hommes, femmes et enfants à la frontière mexicaine, et je me suis arrêtée, je me suis demandé, mais comment peut-on en arriver là? Comment peut-on commettre cet acte? Et c'est pour répondre à cette question, en tant qu'auteur que je suis, que je me suis impliquée dans ce travail.
Dans La griffe du chien comme dans Cartel, comme pour Corruption dans un autre domaine, il y a une masse de documentation énorme. C'est-à-dire, vos livres n'auraient pas cette qualité littéraire et cette ambiguïté morale qui les rend fascinants. Ce seraient déjà des documents extraordinaires. Comment vous faites? Vous êtes journaliste, vous allez sur le terrain, vous rencontrez des flics pourris, des trafiquants de drogue, vous ne faites que lire, vous travaillez avec Internet. Comment vous faites?
You know, I'm not a journalist. I sometimes wish I were.
Non, je ne suis pas journaliste. J'aimerais bien l'être. C'est un métier que j'admire énormément. En revanche, j'ai été détective privé pendant des années et ce métier m'a appris, via les dossiers criminels que je traitais, à mener des entretiens, à savoir apprendre à poser des questions, surtout quand la personne en face de moi me mentait.
For the grief du chien, I, of course, I talked to drug traffickers. I talked to them on the streets. I talked to gangs.
Et pour La griffe du chien, oui, je me suis adressée à des trafiquants de drogue, à des dealers, à des gangs. Je suis allée dans des prisons, j'ai rencontré des flics, j'ai parlé à toutes les personnes qui voulaient bien me parler. Et d'ailleurs, ce sont des conversations qui continuent encore aujourd'hui. Et malheureusement, certaines de ces personnes, en revanche, sont mortes depuis.
Et pour corruption, parce qu'on a l'impression que les pratiques des flics pourris sont encore moins connues que celles des trafiquants de drogue. Et là, il y a un luxe de détails énorme dans les livres. Vous en avez rencontré ? Il y a des pourris qui se sont confessés à vous, sans vous mentir ?
Oh, sure. Listen, I've known cops all my life. You know, part of my family were cops. Grew up in that genre.
Oui, tout à fait. Ceci étant, moi, je connais des policiers depuis la nuit des temps. Il y a des policiers dans ma famille, j'ai grandi dans ce milieu. Mais pour ce livre spécifiquement, j'ai effectivement mené des entretiens avec des flics. Certains, oui, étaient ripoux, corrompus. Et puis certains, à la retraite, est-ce qu'on peut parler d'aveu ? En tout cas, ils étaient contents d'ouvrir ce dialogue avec moi. Et ça prenait effectivement un petit peu la forme d'une confession, ou plutôt d'une conversation.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Don Winslow, la drogue au XXe et sûrement au XXIe siècle, à peu près la même fonction que la peste au Moyen-Âge, c'est sûrement le meilleur moyen de parler d'une époque. Pour vous, est-ce que la drogue n'est pas, au-delà d'une crise de société, d'un problème criminel, carrément le meilleur moyen d'aller au-devant avec tout ce qu'elle génère de culture, de violence, de rapport à l'État, à la société, d'aller au-devant de l'époque contemporaine?
I don't know if it's the best way, but for a crime writer, it certainly is an avenue into a lot of other issues, you know, economic issues, political issues.
Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen. En tout cas, ça ouvre un boulevard pour aborder d'autres problèmes, les questions économiques, les questions politiques, les questions liées au gouvernement. Et en menant mes recherches, je me suis retrouvée à la fois extrêmement choquée et extrêmement en colère de me rendre compte à quel point le gouvernement était complice et jouait un rôle dans le trafic de drogue, dans la guerre qui avait été menée contre le communisme plutôt que contre la drogue. Et ça m'a ouvert les yeux sur cette complexité qui n'apparaît pas en surface de prime abord.
Alors corruption, Don Winslow, est aussi une manière pour vous de retourner sur les lieux de votre enfance, de votre jeunesse, puisque vous êtes né à Staten Island, près de New York. Et New York, comme on le dit souvent, c'est plus qu'un cadre, plus qu'un décor, c'est un véritable personnage, ça a beaucoup plus de force et d'importance qu'un simple lieu où se déroule l'action. Il y a d'abord ce poids de New York, à la fois parce que Danny Malone est le roi, non pas de New York, quoique, mais d'une partie de New York, Manhattan Nord, où il dirige cette Task Force, c'est-à-dire un groupe de policiers d'élite qui est toujours en pointe sur les affaires de drogue. Et puis surtout, il y a de nombreux passages où la ville est contemplée par Denis Malone comme avec une grande tendresse et un grand intérêt, notamment quand il marche le matin, quand il prend le taxi, quand il est dans une voiture de police, il regarde par la vitre et il voit les rues, il voit le coin des rues, il voit les ponts, les gratte-ciel, les magasins, les gens. Il y a vraiment d'abord et avant tout New York.
Yeah. Well, as you said, I was born in New York. I lived and worked in those streets that Danny Malone works in. You know, there are a couple of things I never ever get tired of doing in my life. One is driving the Pacific Coast Highway in California. The other is walking Broadway in New York.
Vous avez raison, je suis né à New York et j'ai longuement travaillé et arpenté ces rues dans lesquelles on retrouve Denis Malone. Vous savez, il y a deux, trois choses dans ce bas monde dont je ne me lasserai jamais. La première, c'est de prendre ma voiture et de rouler sur la Highway 1 en Californie. Et la deuxième, c'est de marcher sur Broadway à New York. Cette ville a un pouvoir évocateur phénoménal. Alors, c'est en partie de la nostalgie, parce que oui, j'ai le souvenir de certains lieux. Et puis, c'est une fascination profonde et un amour viscéral pour cette ville qui littéralement me coule dans les veines. Et ce livre, The Force, j'ai souhaité sans doute l'écrire toute ma vie, mais ce n'est que récemment que j'ai songé que j'avais les épaules et la carrure nécessaires pour m'y atteler.
One morning when I was a private investigator, I'm walking back up Broadway, 3 a.m.
Je me souviens d'un matin, alors que j'étais encore détective privé, je remontais Broadway, il était 3 heures du matin, et je passe devant une librairie, et au premier étage, il passe un disque d'Edith Piaf à fond les manettes, et c'était une matinée d'été, déjà brûlante, absolument sublime, comment ne pas aimer cette ville.
Thank you.
peut y être policier sans y être corrompu? Est-ce qu'on peut combattre le mal dont vous dites à un moment que le 11 septembre a sauvé la mafia? Comment est-ce qu'on peut combattre ce mal d'après le 11 septembre sans être corrompu?
Yeah, certainly it's possible to be a cop in New York and not be corrupt, and I would say most of them are not corrupt. That's not the story I wanted to tell. Because I find crooked lines are
je pense qu'il est tout à fait possible d'être policier et de bien faire son travail sans être corrompu. Je pense d'ailleurs que la plupart des policiers ne sont pas corrompus. En revanche, ce n'est pas ce type d'histoire qui m'intéresse. Je n'aime pas les lignes droites, je préfère les lignes tordues. Et vous avez raison, après le 11 septembre, la police de New York a mis l'accent sur le combat contre le terrorisme au détriment du combat contre la mafia, qui à l'époque avait quasiment disparu de la ville et qui a pu renaître de ses cendres. Est-ce qu'on peut combattre la corruption sans être soi-même corrompu? Sans doute partiellement. Je pense qu'il faut en revanche adopter des méthodes de corruption afin de combattre la corruption.
Plus on lit vos livres, plus on s'aperçoit que l'un des thèmes majeurs, au-delà des cadres différents, la drogue, la corruption de la police, c'est ça, c'est cette espèce de connexion entre le bien et le mal. Vous, les deux héros de La Griffe du Chien et Cartel, à la fin se retrouvent dans un flou moral extrême. Denis Malone, lui aussi, fait comme il peut, devient de plus en plus corrompu, est obligé de sacrifier tout ce qu'il y a autour de lui. Est-ce que pour vous, c'est ça, le bien et le mal n'existent pas et en fait, on est tous dans un espèce de flou où il faut trouver ses marques?
Certainly, I think good and evil do exist, but I don't know that there's a bright line between them. I think it's more of a gray zone.
Je pense en effet que le bien et le mal existent véritablement. En revanche, je ne suis pas sûr que la ligne entre les deux soit très claire. C'est plutôt une zone grise. Je ne pense pas que certaines personnes aient pour objectif d'être mauvais ou de faire le mal autour d'eux. En revanche, ce que vous disiez plus tôt est juste, c'est-à-dire je pense qu'on arrive au mal un pas après l'autre. On a une certaine direction dans le viseur, on avance dans un certain sens et puis on dévie au fur et à mesure, un pas après l'autre, on dévie et puis tout d'un coup on se retrouve perdu en pleine nature.
Don Winslow, Danny Malone, donc le héros de Corruption qui paraît chez Harper et Collins dans la collection noire, est un personnage qui est donc new-yorkais de manière consubstantielle, irlandais, catholique, et dont le père était lui-même policier. Et il y a cette scène traumatique, si on essaie de reconstituer toute la démarche de ce personnage, il y a d'abord cette scène où il découvre son père mort dans la neige un petit matin en allant à l'école. Et ça, c'est tout à fait essentiel, puisque ça va engendrer après une logique qui ne le quittera pas.
Yeah, you know, there are neighborhoods in New York, particularly on Staten Island, where everybody is either a cop, a fireman, or a criminal. You know, you can walk down the whole street. They're all Irish or they're Italian, and they have those deep family bonds.
Il y a des quartiers entiers à New York, notamment du côté de Staten Island, où les gens sont soit pompiers, soit policiers, soit criminels. Ils sont tous d'origine soit irlandaise, soit italienne, et ils entretiennent des liens familiaux très très forts. C'était essentiel pour moi d'extirper Denis Malone de ce lien, et la mort de son père me permettait de le déraciner et de le mettre seul face à ce questionnement du bien et du mal.
En effet, c'est un solitaire, c'est un samouraï, il est tout le temps habillé en noir. Il y a chez lui une sorte d'éthique personnelle. Et avant de parler de la corruption, parlons peut-être de la mission qui est évoquée de manière quasi théologique. Un des personnages dit à un moment, notre boulot c'est d'empêcher la jungle de reprendre possession du paradis. Donc c'est plus qu'une mission de maintenir l'ordre municipal. C'est quasiment une mission théologique.
It is. I think it is a theological kind of mission. Now, Denny no longer believes in God, but he does believe in his mission. Now, cops, this kind of cop, charismatic guys, powerful guys, and they have very, very specific goals in mind. So they don't necessarily see a contradiction between stealing drug money, someone's going to get it, and getting bad guys off the street. They make a vast distinction between violent crime and non-violent crime.
Vous avez raison, c'est quasiment une mission théologique, bien que Malone ne croit plus en Dieu. En revanche, il croit fortement en sa mission. Vous savez, ce genre de flic très charismatique, très puissant, ne voit pas de contradiction entre le fait de voler de l'argent de la drogue et de retirer des criminels de la rue. Pour eux, leur boulot, c'est ça. C'est d'enlever, ôter tous ces criminels de la rue. Parce que les relations de base, contrairement à ce que voudrait nous enseigner le drame, c'est que la relation ne se joue pas entre les policiers et les criminels. La vraie relation, c'est entre les policiers et les victimes. C'est eux qui sont témoins du mal qui est fait aux victimes, aux gens dans la rue.
Vous parliez de personnages charismatiques. Il y a aujourd'hui une sorte de mythification du trafiquant de drogue. On a eu droit à deux séries télé et deux films sur Escobar, une autre série sur El Chapo Guzman, qui est le modèle de Barrera dans vos livres, un film sur Barry Seal, donc complice d'Escobar. Qu'est-ce que représente aujourd'hui le trafiquant de drogue? Et est-ce que ça vous paraît symptomatique de l'époque, que ça soit lui, le méchant, entre guillemets, qui devienne le héros plus que le flic qui le combat?
Don Winslow.
I haven't seen the works that you alluded to. I deliberately don't watch film and television about drug trafficking because I don't want to be influenced. I want to have my own take. So I'm speaking here a bit out of ignorance. I think certainly in some cultural sense, the drug dealer has become the bandit figure out of older sort of literature. Nothing could be further than
the truth. Je n'ai pas vu les œuvres dont vous faites référence, et délibérément, car je ne regarde aucun film ou série qui traite du trafic de drogue afin de ne pas être influencé dans mon travail, donc je vais vous répondre pas en connaissance de cause, malheureusement. Culturellement parlant, oui, je pense que le trafiquant de drogue, on en a fait une figure littéraire du méchant un peu romantique, et je pense que c'est une erreur, car ce sont en réalité des psychopathes violent. Et moi-même, j'hésite sous ma plume à appeler Guzman El Chapo parce que c'est un surnom un peu disneyen, sympa, pour un tueur de masse.
On parlait des victimes. Les choses les plus marquantes de corruption, Don Winslow, c'est effectivement le sort réservé aux faibles ou à certains personnages qui sont considérés comme de purs agents de terrain, qui sont véritablement assassinés. Alors il y a cet exemple d'un indicateur qui est cloué, crucifié à un arbre dans un parc municipal, d'autres, une famille entière qui est exterminée, le père, la mère et les trois enfants pour avoir refusé de vendre telle héroïne plutôt que telle autre. Donc il y a d'abord la grande misère sociale de tous ceux qui sont en définitive les vaincus de cette situation et qui la plupart du temps finissent massacrés et exterminés.
Yes, I can only agree. You know, look, the drug problem is a disease. And part of the disease is that we've criminalized it. When you criminalize anything, drugs, blue jeans, it doesn't matter, does it?
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème de la drogue, c'est que c'est une maladie, et une maladie que l'on a pénalisée. En la pénalisant, on l'a laissée entre les mains de criminels, donc on l'a extrait d'un potentiel recours à la loi, et donc on a laissé uniquement un recours à la violence. Je pense que la réponse, c'est de légaliser toutes les drogues.
Quel sens dans ce contexte alors à la lutte contre la drogue? Vous la décrivez à la fin de Cartel avec un cynisme absolu comme uniquement un moyen d'intervention, comme quelque chose dont les vrais buts ne sont pas d'empêcher le trafic de drogue, mais de trouver des biais pour d'autres envies.
Listen, the drug business is big money and the anti-drug business is big money. That's my cynicism. The United States spends roughly 90 billion.
Vous savez, le business de la drogue, c'est comme le business du combat contre la drogue. C'est une affaire de gros sous. Aux États-Unis, c'est 90 milliards de dollars par an. Pour quel résultat? Les drogues sont moins chères, plus puissantes et encore plus répandues. Aux États-Unis, il y a plus de décès par overdose que de décès par accident de la route et armes à feu combinées. Je pense que les solutions mises en œuvre ne marchent pas parce que le problème est un problème de santé publique et pas un problème de maintien de l'ordre.
Don Winslow, un des aspects importants de corruption, c'est la dimension, je dirais, existentielle, quotidienne, au jour le jour, heure après heure, minute après minute quasiment, de la vie de ces policiers. Et donc c'est très impressionnant de voir comment le corps vit. Effectivement, il y a la dimension de la violence que l'on reçoit et que l'on donne. Il y a le fait que la machine soit toujours à son maximum avec le recours aux excitants, aux dopants, à la drogue. Mais à la drogue non pas comme marchandise, mais comme, je dirais, moyen de se maintenir toujours au maximum. Il y a la difficulté d'avoir une vie de famille. Puisqu'il y a aussi le recours à la prostitution, il y a la vie de famille, bon, qui est toujours très largement menacée et contente de préserver. Il y a le rapport au quotidien avec, bah, je dirais, les supérieurs. Donc il y a toute une dimension existentielle que vous résumez bien, je crois, avec la métaphore de la porte. On parle beaucoup de franchir des lignes, et à un moment, Malone dit: dans ma vie, qu'est-ce que j'en aurais franchi de ces portes? Et on ne sait jamais ce qu'il y a derrière la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vous tuer? Est-ce qu'il y a des morts qui attendent qu'on les compte? Est-ce qu'il y a un supérieur qui va vous passer un savon? Est-ce qu'il y a un juge que vous allez tenter de corrompre? Il y a cette idée comme ça du franchissement permanent de la limite.
Well, thank you for observing that. Yeah, it was intentional. You know, again, I spent years with cops and talking with cops. I went out on patrol with cops. I went through some of those doors. You know, you never know. Look, if my wife during the day, her biggest concern is that I might come home in a bad mood, but she's pretty sure I'm coming home. I've gone on a cop's
wife. Je vous remercie pour cette observation. C'est très juste. J'ai fréquenté énormément de policiers, comme je le disais, je les ai suivis en patrouille et certaines de ces portes, je les ai moi-même franchies. Le seul problème que peut éventuellement avoir mon épouse, c'est se demander si je vais pas être une humeur de chien quand je vais rentrer à la maison. Les époux et épouses de policiers et policières n'ont pas cette certitude. Ils se demandent si tout simplement leur époux va rentrer à la maison. La plupart du temps, sur le terrain, il ne se passe rien. Mais quand il se passe quelque chose, c'est mortel et oui, ça fait basculer des vies. C'est peut-être pour ça, comme vous le disiez, que les policiers vivent dans l'instant. Ils ne peuvent pas se permettre de ramener leurs histoires du terrain à la maison et de franchir la porte de la maison avec. Ils ne s'assoient pas à la table de la cuisine devant leur époux, épouse en disant « Comment ça va chérie? Moi j'ai passé une bonne journée, j'ai vu un mort, j'ai tiré sur quelqu'un, j'ai vu un enfant battu. » On ne peut pas faire ça. On est obligé de laisser la rue à la porte de la maison.
So cops get very lonely.
Et le résultat de tout ça, c'est que les policiers se sentent très seuls et vivent dans un monde qui sans cesse rétrécit autour d'eux. Si vous saviez le nombre de fois qu'un policier m'a dit « je ne peux parler qu'à un autre policier », qu'un époux-épouse de policier m'a dit « je ne peux parler qu'à un autre époux-épouse de policier » car ils se sentent éminemment seuls.
Quelle est la motivation alors de ces policiers que vous avez rencontrés? Dans vos livres, aucun n'est pur totalement. Dans Corruption, Lévin, qui est le seul qui essaie de refuser le jeu de la corruption directe, finit par y céder parce qu'il n'a pas le choix. Art Keller, le héros de La Griffe du Chien et de Cartel, finit par être envahi par des désirs de vengeance qui le débordent. Au départ, ils sont quoi? Ce sont des chevaliers blancs, sont des gens qui luttent pour le bien. C'est qu'est-ce qui les pousse à cette vie très difficile que vous décrivez?
The motivation for becoming a police officer varies tremendously. In New York, a lot of it is simply cultural. My dad was a cop, my uncle was a cop, my aunt was a cop. I'm going to be a cop. In rare cases, guys go into the police as a business.
Les motivations varient énormément d'un cas à l'autre. À New York, c'est profondément culturel. Mon père était flic, mon oncle, ma tante, donc je fais pareil. Mais dans de rares cas, ce sont des gens qui entrent en affaires comme on entre en business parce qu'ils savent qu'ils vont faire de l'argent grâce à la corruption. Si je mets mon cynisme de côté un instant, il y a aussi un grand nombre d'hommes et de femmes qui rentrent dans la police parce qu'ils veulent aider les autres et qu'ils y parviennent, ils y arrivent et ils continuent à le faire tout au long de leur carrière.
Alors le roman s'appelle Don Winslow de Force, nous il est traduit en français sous le nom de Corruption. Parlons de l'acte de corruption, ce qui ne consiste pas uniquement à toucher des pots de vin pour telle ou telle raison et pour masquer telle ou telle forfaiture ou en accélérer une autre. Enfin bon, l'acte essentiel consiste d'abattre un trafiquant d'héroïne, de confisquer, je dirais, le stock et après de l'écouler et d'utiliser l'argent qui en provient d'une certaine façon à améliorer sa vie, améliorer la vie des siens, s'offrir de temps en temps des fiestas presque orgiaques. Donc c'est la corruption, on a l'impression qu'elle est là pour éventuellement, c'est un rééquilibrage. Ce sont des policiers qui descendent dans l'égout et dans la fosse tous les jours et qui à un moment se disent, après tout, cet argent, autant que je m'en serve moi, puisque après moi au moins je n'en aurais pas, je n'en mésuserais pas quoi.
Yeah, I talked to so many cops, so many honest cops, who said, you know, in the quieter moments of our conversation.
Vous savez, je parle à énormément de flics qui sont droits dans leurs bottes et dans les moments calmes de la conversation, ils me disent, vous savez, moi je le ferais si j'avais pas peur de me faire prendre. Cette drogue, cet argent, je les empocherais. Et dans une unité comme celle de Denny, il faut savoir que les flics voient de leurs propres yeux des millions de dollars. Aujourd'hui, les trafiquants de drogue, ils s'embêtent même plus à compter l'argent, ils le pèsent. Ils connaissent le poids de l'argent. Et quand on rentre dans certaines salles, dans certaines pièces, il y a de l'argent du sol au plafond, des billets de 20 dollars du sol au plafond. La tentation est grande d'empocher l'argent parce qu'on s'est dit, plutôt que de laisser l'argent filer, de se faire piquer un petit peu plus loin dans la ligne ou de partir dans les coffres du gouvernement, autant que cet argent me serve effectivement à moi.
D'un point de vue plus littéraire, vous écrivez de très gros livres et en même temps, ils sont de plus en plus épurés. Corruption est un livre dans lequel il y a pratiquement autant de dialogues que de textes. Est-ce que vous travaillez volontairement ça? Est-ce que vos manuscrits originaux sont beaucoup plus gros et après vous barrez? Comment vous conjuguez à la fois cette ampleur romanesque du livre et cette épure de la phrase?
You know, hopefully one grows up, you know, and matures in one's work. I write my early drafts very fast.
Avec un peu de chance, on grandit et puis son travail acquiert un petit peu de maturité au fil des ans. La première mouture d'un roman, je l'écris extrêmement vite, sans me préoccuper du lecteur. Et puis au fur et à mesure que je relis, que je corrige, je me pose les questions. Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est beau? Est-ce que les sonorités sont au rendez-vous? Et puis je corrige et j'enlève chaque mot superflu. J'ai cette image, je dis toujours qu'un mot pour rester doit soit payer son loyer, soit tout au moins sortir les poubelles.
Effectivement, comme le disait Hubert Prolongeau, Don Winslow, vos pages ressemblent, il n'y a pas de bloc de texte, mais carrément une colonne de texte, une sorte de totem comme ça, avec une électricité, une pulsation continue sur près de 580 pages pour l'édition française, qui est absolument vertigineux et considérable. J'aimerais vous interroger sur l'importance du cinéma, puisqu'en tant que New-Yorkais, vous avez dit, vous aviez été marqué par le cinéma new-yorkais, enfin le cinéma à New York, qui utilise New York, qui chante New York, non pas moi, Jules Dassin, La Cité sans voile ou autre, mais plutôt les gens des années 70-80, Friedkin, French Connection, Serpico, ou encore Le Prince de New York, Lumet, Ferrara, tout ça. Quelle est la place du cinéma dans l'acte d'écriture? Est-ce que vous avez déjà une vision de la scène? Quelle place a le cinéma dans votre démarche?
I don't think I have a particularly cinematic vision of my scenes because I'm very aware that it's on the page. Certainly I have a vivid image of those scenes.
Je ne sais pas si je qualifierais mon travail de cinématographique, car j'ai fortement conscience qu'il se situe sur une page de papier, mais je dirais qu'en tout cas j'ai une image très forte de ce que j'écris. Et oui, vous avez raison, l'influence du cinéma est très importante. J'ai un souvenir très précis du jour où j'ai vu French Connection, et French Connection, je lui dois ma carrière d'auteur de romans policiers aujourd'hui. Je me souviens, gamin, d'être sorti du cinéma sur Broadway, très remué par le film et de m'être dit si un jour je pouvais moi écrire des histoires comme ça et en vivre, ça serait magnifique. J'ai mis un moment, j'y suis parvenue, c'est ce que je fais aujourd'hui et j'ai même rencontré Friedkin.
Vous écrivez beaucoup de séries de livres. Il y a eu Savagey, c'est cool. Il y a 3 tomes de La Griffe du Chien. Vous avez même écrit une suite au roman de quelqu'un d'autre avec Satori, qui était la suite d'un roman de Trévagnan. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est des univers que vous n'arrivez pas à lâcher, ou c'est l'ampleur de votre vision qui a besoin de se décomposer comme ça en plusieurs livres?
I guess I have a hard time walking away from the world because I swore twice I was going to do it. You know, after I wrote Griffe du Chien, I promised myself, I promised my wife and everybody that I wasn't going back to that world. And a few years later, I'm sitting typing the book Cartel.
Je pense que j'ai beaucoup de mal à me détacher de ces mondes. Vous savez, je m'étais juré par 2 fois qu'on ne m'y reprendrait pas. J'avais écrit La Griffe du Chien, je m'étais promis d'arrêter, j'avais promis à tout le monde autour de moi d'arrêter. Et puis quelques années plus tard, j'ai remis le couvert avec Carter. Après, je me suis dit, ça suffit, c'est trop dur, c'est trop triste, les recherches me poussent dans mes retranchements. Et puis j'ai écrit The Border, en revanche là, pour cette série-là, c'est fini. Moi, j'aime les livres longs, j'aime les lectures de grande ampleur et j'espère pouvoir emmener les lecteurs avec moi dans ces lectures-là.
Don Winslow, le personnage d'Annie Malone, se dit le roi de New York. Donc il y a une vision féodale, médiévale. Vous citez un moment Runny Mead, qui est une bataille, un accord entre le roi d'Angleterre et les barons, qui a donné la Magna Carta. Donc il y a un arrière-plan médiéval et qui renvoie également à Shakespeare. Et c'est souvent l'impression que l'on a, c'est d'assister à une sorte de grande dramaturgie, beaucoup plus qu'un roman traditionnel avec des descriptions, passages, enchaînements, descriptions, dialogues. Là, les descriptions sont réduites au minimum. Tout est dans l'énergie, l'électricité des dialogues. Donc c'est plutôt une sorte de roman dramaturgique que vous voulez créer.
I can only agree and thank you. You know, I'm very influenced by Shakespeare. And I viewed this book as a tragedy. In fact, structurally, it's written in 5 acts. Not terribly interesting, but 5 acts as a Shakespearean tragedy would be. I consulted Macbeth, Richard III, Henry IV in writing this book.
Je suis tout à fait d'accord avec vous et je vous remercie de ce commentaire. J'ai effectivement, je suis très influencé par Shakespeare et j'ai construit ce roman comme une tragédie shakespearienne en 5 actes. Je me suis beaucoup penché sur Macbeth, sur Richard III, sur Henri IV. Et ce côté féodal, ce tissu féodal que vous soulignez est absolument vrai. Un commissariat, c'est un petit peu à New York comme une organisation féodale. Les policiers sont des chevaliers, sont des vassaux, ils doivent allégeance à leurs supérieurs. Mais quel est le devoir d'un roi avant toute chose? Le devoir d'un roi, c'est d'assurer la protection de ses sujets.
Oui, vous êtes avec nous, vous êtes tout à fait aimable, voire normal. Comment vous vivez cependant, vous, avec cette tragédie? Quand vous rentrez chez vous, vous enlevez tout ça? Ou est-ce que cette fréquentation quand même du mal dans ce qu'il a souvent de plus horrible vous affecte personnellement?
You know, that's one reason that I swore twice that I wasn't going back to it. Because it is too sad. It is particularly the drug world, so violent. You know, there were days that I did nothing but
c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais juré qu'on ne m'y reprendrait plus, parce qu'il y a une telle violence à l'œuvre dans ce monde de la drogue que c'est parfois insoutenable. Je me suis retrouvée pour les recherches du cartel à regarder pendant une journée entière des atrocités, des vidéos montrant des atrocités de violence. Mais vous savez, c'est mon travail. Je me lève le matin pour travailler comme si j'allais à l'usine. Et puis, quand la sonnerie retentit le soir, je rentre chez moi et je retrouve mon épouse à la maison.
Don Winslow, on ne va pas dévoiler la fin du roman, mais on pourrait dire simplement qu'on n'est pas loin du jugement dernier, voire de l'apocalypse. Il y a quelque chose de quasiment eschatologique dans cette dernière scène. Est-ce que vous pensez, vous-même, que tout ce problème énorme créé par la drogue pourrait un jour pousser l'Amérique à une crise générale?
I think that the drug problem is one symptom of things that could push America to that kind of crisis.
À mon sens, le problème de la drogue est un symptôme de ce qui va pousser les États-Unis vers cette crise. Au départ, le roman, j'ai hésité à l'intituler The Fire This Time, c'est-à-dire l'incendie, l'embrasement cette fois-ci. Je pense qu'il y a une maladie de l'âme américaine. Il faudrait se poser la question pourquoi la drogue, pourquoi l'usage des drogues? On utilise des drogues pour répondre à la douleur, mais quelle douleur? Et je pense que tant qu'on n'aura pas affronté cette question, connaître les racines de la douleur, oui, on va s'acheminer vers l'apocalypse.
Avant cela, dernière question, Don Winslow. Quel est le retour des lecteurs et surtout des lecteurs policiers, de ceux qui lisent, qui ont lu les romans et qui ont eu notamment The Force?
For the most part, the cops that have read the book have been very positive. Now some have been critical, you know, and they've said, well, this is not my world.
La plupart des retours que j'ai eus venant de policiers sont positifs. J'ai eu également quelques critiques de gens qui me disaient « ce n'est pas mon monde, ce n'est pas mon univers ». Alors forcément, certains ne s'y reconnaîtront pas, d'autres s'y reconnaissent. Avant de venir ici en France, j'ai reçu un coup de fil anonyme d'un policier d'une ville que je ne vous citerai pas, qui m'a dit « je ne vous connais pas, mais je suis en route pour l'enterrement d'un officier de police et je voulais vous dire que ce que vous faites, ce que vous écrivez, vous voyez tout juste, vous avez raison et je voulais vous en remercier et c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire à moi, auteur.
Avant de quitter Don Winslow, une chronique unique dans cette émission, Hubert Prolongeau, à propos de
Donald Westlake. Voilà. Do you like Donald Westlake?
Who doesn't like Donald Westlake?
Oui. En fait, c'est assez amusant parce que là, on change totalement de genre. Votre vie de moine, François, vous interdit de connaître ses excès. Mais après une bonne cuite, on a des fois besoin d'un coca bien frais. Et Donald Westlake, après Don Winslow, ça fait un peu ça. Westlake est un auteur léger, amusant, dont les intrigues assez farfelues sont essentiellement comiques. Et il est mort il y a 10 ans, malheureusement. Un double hommage lui est rendu cette semaine avec la réédition d'un livre de 1985 qui s'appelait High Adventure en anglais et qui a été traduit, je laisserai chacun juger de la pertinence de cette traduction, par Tous les Mayas sont bons, par les éditions Rivage. Ça reste un excellent roman qui mêle, comme beaucoup de Westlake, des personnages un peu déjantés, une arnaque au faux temple maya au Belize, un archéologue idéaliste, un fonctionnaire corrompu, tout ça dans un magma bouillonnant. Et il y a également un omnibus qui ressort avec les trois premières aventures de Dortmunder, personnage magnifique, qui est un peu le Garcimore du cambriolage, c'est-à-dire un personnage qui rate absolument tout ce qu'il entreprend malgré une inventivité sans faille. Voilà, donc mettre dans la même émission Winslow et Westlake, c'est en même temps montrer l'infinie gamme du genre noir qui va de ces dénonciations quasi dostoïevskiennes de personnages corrompus à des espèces de fantaisies extrêmement enlevées et fort drôles. Donc voilà, donc lisez Don Winslow et puis après, si vous vous sentez pas bien, tapez-vous un petit Westlake.
Une émission que nous achèvons bien sûr en compagnie du Maître Beer.
Les amateurs de bondage et de sadomasochisme connaissent tous Ernest Stanzoni Jr., fils d'une mère polonaise et d'un père italien né en 1926 dans un appartement de Brooklyn. Au sortir de son engagement dans la marine, il assiste un cartooniste comique pour qui il dessine les fonds, compose les lettrages, aquarellise les épreuves, jusqu'à sa découverte en 1949 dans un magazine de pin-up d'une annonce proposant des sérioles en bande dessinée avec des demoiselles en détresse. 50 cents l'épisode, c'est intriguant. Recevant ensuite plusieurs planches sur papier photo d'un combat de femmes peu exaltant, il propose ses services à l'éditeur Irving Claw, dont il devient l'un des artistes phares, adoptant le nom de Stanton et signant un nombre considérable d'histoires en 20 ou 30 épisodes. Pionnier du sexe déviant, insatiable à la tâche, comme ivre de fantasmes, il se met au service quotidien de femmes contraintes à d'étranges tyrannies, le buste enfermé dans une valise, d'où n'émerge qu'une paire de jambes cuissardées, effilées comme des compas, ou le visage recouvert d'un masque de cuir intégral, énigmatique silhouette érotisée par son trait, par les reflets blancs sur le satin, la chair gonflée par les liens serrés, l'éclat des regards brillant de désir. Un commerce underground, flirtant avec les limites de la censure, s'organise par voie postale et dans les officines de Times Square. Eric Stanton and the History of the Bizarre Underground de Richard Perez Seves révèle des éléments de la vie intime du dessinateur, établit sa bibliographie et fait revivre ce monde englouti, persécuté par le sénateur Kefauver et les descentes du FBI. Claw n'est pas l'unique pourvoyeur. Stanton les a tous côtoyés. Eddie Mishkin, Max Stone qui ne voulait que des catcheuses, Lenny Burtman qui réclamait des hommes travestis et des dominatrices mais payait si mal, Stanley Malkin pour qui il composa des couvertures bigarrées de paperback. Nous sommes comblés par l'iconographie, mais l'auteur manque de recul. Si Stanton partage pendant 10 ans un studio avec Steve Ditko, qui encre parfois ses planches, il est ridicule de supposer Stanton co-créateur de Spider-Man. Plus grave est le fait de reléguer en 24 lignes condescendantes la seconde partie de sa carrière, celle de l'indépendance des Stantoons, ces brochures agrafées qu'il imprimait et diffusait lui-même. Répondant aux fantasmes souvent extrêmes de sa clientèle, il crée des Amazones phalliques d'une monstrueuse agressivité, aussi troublante que la pour Pamela, la Phyllis en péril, la Sweater Gwen des débuts. Nier leur existence, c'est figer le génie protéiforme de Stanton dans un rêve nostalgique labellisé « vintage », ce terme publicitaire qui ne signifie rien. We'll be right back.
Merci Don Winslow pour cet entretien accordé à Mauvais Genre sur France Culture. Et puis merci pour ces heures extraordinaires de lecture depuis longtemps. Et évidemment, nous recommandons chaudement Corruption. Faites lire, lisez, relisez, faites lire et faites relire. Corruption de Don Winslow, c'est dans la collection HarperCollins Noir. Le texte est traduit par Jean Hesch, c'est-à-dire la qualité de la traduction. Et merci à Fabienne Gondran d'avoir traduit.
Merci.
La discussion avec Don Winslow, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Thomas Robbins, Siam Boutata, Céline Duchesnay, Claire Martin-Duguerre, Hubert Prolongeau et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve samedi prochain où nous serons en compagnie de Jacques Audiard. Et d'ici là, bonne nuit à tous.